Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Mes très chers frères, dimanche dernier, nous avons suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert jusqu'à défaillir. Vous vous souvenez, c'est pour cela qu'il avait eu pitié de nous. Aujourd'hui, l'Église récompense notre fidélité, que nous devons à la grâce de Dieu, en nous apprenant la sagesse. Voilà pourquoi dans le graduel, elle nous fait entendre ces paroles du psalmiste. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. » La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, dit Salomon. En quoi consiste cette sagesse? En quoi consiste cette crainte du Seigneur? Eh bien, mes très chers frères, dans le discernement sur soi-même. Bienheureux celui qui peut se juger soi-même avec la lucidité qui vient de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu par-dessus toute chose. Comment apprendre la crainte du Seigneur? Eh bien, mes très chers frères, ce sera le thème, avec l'aide du Saint-Esprit, le thème de cette instruction d'aujourd'hui. Nous verrons premièrement la condescendance de saint Paul dans son discours envers notre faiblesse et comment nous devons en tirer profit. Nous verrons aussi que le chrétien est différent de ce qu'il fut autrefois. Il est différent aujourd'hui de ce qu'il fut autrefois. Et nous parlerons du devoir d'agir rationnellement. Et nous verrons comment nous nous poserons la question, comment se persuader des vérités que nous aurons vues. Ça sera notre premier point. Ensuite, le deuxième point sera le suivant. Nous regarderons, nous investiguerons quelque peu les caractéristiques des faux docteurs. Quelques-unes, au moins une caractéristique des faux docteurs, telle que nous l'enseigne notre Seigneur. Et nous poserons la question, qu'est-ce qui fait un bon arbre? Et nous parlerons aussi brièvement des illusions, des paroles, sans les illusions que sont les paroles sans les œuvres. Et nous terminerons en troisième point par une application de la doctrine du bon arbre et avec une brève explication de l'oraison. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Écoutons saint Paul. Mes frères, dit-il, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir saints. Pourquoi saint Paul parle, dit-il, qu'il parle à la manière des hommes? Si nous ne lisons que cette épître, et nous ne la lisons pas dans le contexte de l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 6, nous pouvons nous imaginer qu'il s'agit là d'une sorte de ces bizarreries de langage qui viennent de ces textes très anciens, qui sont plus ou moins mal faits, et qui de toute façon n'ont pas une très grande importance, puisque l'essentiel c'est de lire le catéchisme et de savoir ce qu'il faut faire pour... Alors, attendez, n'allons pas trop vite, mes très chers frères. Pourquoi il n'y a aucune parole, aucun trait de lettre de l'Écriture qui ne soit inspiré directement du Saint-Esprit pour notre instruction? Donc, si saint Paul dit « Mes frères, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de notre chair » et qu'ensuite il nous dit « Livrez vos membres au service de la justice comme vous les avez livrés autrefois au service de l'iniquité », c'est qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Et c'est exactement ce que nous disent les commentateurs. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Église et de la tradition de l'Église, nous avons besoin des saints-pères pour pouvoir comprendre exactement ce que l'Écriture nous dit. Sinon, nous sommes réduits à notre petite idée, et notre petite idée, reconnaissons-le, ne vaut pas grand-chose en réalité. Donc, si nous regardons l'épître qui nous est donné aujourd'hui, en ce septième dimanche, après la Pentecôte, dans le contexte général du chapitre 6 de l'épître aux Romains, nous voyons que saint Paul venait de faire aux chrétiens l'obligation d'être esclave de la justice. Alors nous pouvons nous poser la question, avec un auteur, peut-on dire que saint Paul demande trop de nous en faisant de nous des esclaves de la justice, est-ce qu'il ne demande pas quelque chose qui dépasse les forces humaines, mais aussi qui dépasse peut-être simplement ce que le bon Dieu demande aux chrétiens, bon Dieu qui, comme tout le monde le sait, n'en demande pas tant. Eh bien, mes très chers frères, c'est une erreur de penser comme ceci. Mais comme saint Paul connaît bien notre cœur, puisque c'est un saint, c'est un grand docteur, c'est le grand docteur des nations, et il est inspiré par le Saint-Esprit, il nous dit « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de notre chair, de votre chair. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que saint Paul va nous dire quelque chose, mais en quelque sorte de minimal, Parce que, nous disent les commentateurs, il s'accommode à la faiblesse de notre chair. C'est-à-dire, un auteur que j'ai consulté nous dit, en réalité, saint Paul use d'euphémisme pour ne pas trop nous vexer. Mais nous, les commentateurs, nous devons être explicites. À cause de la faiblesse de votre chair signifie à cause de votre lâcheté, à cause de votre tiédeur, à cause de votre pusillanimité, à cause de votre paresse. Et que nous dit saint Paul? Il nous dit, comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir saints. On va dire, oui, c'est tout un programme, c'est beaucoup. Non, c'est le minimum. Que nous dit saint Paul? Saint Paul se rabaisse à utiliser un langage humain par condescendance, par lequel il nous dit, écoutez, puisque autrefois vous avez livré vos membres pour accomplir l'iniquité, eh bien, dans la même proportion, livrez vos membres maintenant à la justice pour faire la justice. Vous allez dire, oui, ben c'est la vie chrétienne. Eh bien, non, mes très chers frères, vous ne comprenez pas ce que saint Paul veut dire. Il dit, c'est le minimum, parce que si nous avons livré nos membres au service de l'injustice autrefois, nous devrions les livrer 1000 fois plus au service de la justice. Mais saint Paul, par condescendance, nous dit, faites au moins pour Dieu la même chose que vous avez faite pour le diable. Comme vous avez été passionné de vivre pour vous-même, c'est-à-dire pour le diable autrefois, mettez toutes vos ressources pour vivre pour Dieu, au moins avec la même intensité. Vous comprenez? Effectivement, c'est quand on comprend ce que dit saint Paul, c'est un peu vexant. En fait, il nous dit, ce qui vous paraît, mes très chers frères, à nous tous, ce qui nous paraît un gros effort de la vie chrétienne, n'est en réalité que le béaba et le minimum que le devoir de reconnaissance exige de nous envers ce Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans l'admirable lumière de son Fils unique bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Faire autant pour Dieu qu'on en a fait pour le diable, c'est le minimum, mes très chers frères. Être chrétien aujourd'hui comme nous avons été païens autrefois. Là, vous allez dire, mais il me semble que, justement, livrer ses membres au service de la justice pour devenir saint, c'est beaucoup plus que les livrer, comme je le faisais autrefois, à l'impureté pour commettre l'iniquité. C'est que nous sommes bien faibles, mes très chers frères. C'est que notre lâcheté nous bride, si j'ose dire, notre reconnaissance. Lorsque nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, lorsque nous étions des païens, nous vivions sous l'esclavage du diable, nous avons été libérés par la grâce de Dieu qui nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas encore, puisqu'il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils pour nous que nous avons crucifié à cause de nos péchés. Il nous a donné la grâce de nous convertir. Il nous a convertis à lui. Il a fait luire sa face sur nous. Et nous trouvons que livrer nos membres pour servir la justice, c'est quand même beaucoup que le bon Dieu nous demande. Mes très chers frères, quelle honte si nous pensons cela, et nous le pensons tous d'une manière ou d'une autre, puisque saint Paul s'abaisse jusqu'à dire au moins maintenez les deux plateaux de la balance égaux, et ne laissez pas votre ancienne vie paraître plus vaillante que ne l'est votre nouvelle vie. Alors, oserez-vous dire que vous avez été plus vaillant pour accomplir votre volonté propre, c'est-à-dire la volonté du diable, que pour accomplir la volonté de Dieu? Alors évidemment, bien sûr, saint Paul... et l'Écriture en général et la tradition en général, l'Église nous dit que nous reconnaît que effectivement il est plus facile de livrer ses membres pour servir l'iniquité que de les livrer pour devenir saints au service de la justice. Bien entendu, pourquoi? Vous allez dire oui, mais justement, c'est ça qui m'inquiète. Comprenons la situation. Pourquoi est-il plus facile d'être païen que chrétien? Eh bien parce que pour être païen, il suffit de suivre la pente naturelle de la chair, c'est-à-dire de la concupiscence, du vieil homme. Nous étions esclaves de l'iniquité, de l'impureté et de l'iniquité, et nous livrions nos membres à cette impureté et iniquité pour commettre l'iniquité, dit saint Paul. En cela, nous n'avions pas de gros efforts à faire. Il suffisait d'être soi-même, d'être spontané, de faire ce qui nous vient à l'esprit. Vous savez, c'est pour cela que lorsque, j'espère que vous ne le dites pas, mes très chers frères, mais lorsque les païens disent « Ah, oh, vous savez, moi je suis comme ça, je suis très spontané », le chrétien ne peut pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que quand on est très spontané, on agit spontanément mal. Parce que malheureusement, ça n'a pas toujours été ainsi, nous n'étions pas comme cela dans l'état d'innocence. Mais malheureusement, nous avons perdu cet état d'innocence à cause de la prévarication de nos premiers parents, les malheureux, et donc du coup, ils nous ont précipités dans une pente qui est native. Nous faisons beaucoup plus facilement le mal que le bien, alors que nous avons été créés pour faire le bien. Nous faisons beaucoup plus facilement le mal que le bien parce que c'est la pente naturelle de la chair. Et cela, il faut le savoir et il faut le confesser. Vous allez dire, si on passait à autre chose, ça nous le savons. Le savons-nous réellement, mes très chers frères? Confessons-nous humblement à Dieu chaque jour, à chaque instant, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Confessons-nous à Dieu, et en toute honnêteté, que si jamais Dieu nous retirait sa grâce, nous ne pourrions jamais avoir de la liberté que pour faire le mal. Et nous le ferions librement, ce mal, parce qu'il nous semblerait notre bien, alors que c'est une illusion. Il faut le confesser pour pouvoir remonter la pente. Être esclave de la justice, mes très chers frères, c'est justement remonter la pente. C'est à la fois c'est à la fois être en conformité avec notre raison d'être, avec notre nature, si j'ose dire, et c'est à la fois expérimenter la résistance de notre déformation native. Nous avons autrefois livré nos membres au service de l'impureté et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, c'était la pente. Nous devons maintenant les livrer au service de la justice pour devenir saints. C'est la contrepente et en même temps, c'est la voie native, naturelle, mais native au sens de la création, naturelle de notre nature, si j'ose dire. Remonter la pente, c'est à la fois défaire ce que le diable a provoqué en nous à cause de la chute, et c'est en même temps être tout naturellement humain, c'est-à-dire faire correspondre à la volonté de Dieu pour nous. Conformité à notre raison d'être, donc. Il nous faut donc, mes très chers frères, pour remonter cette pente, déjà porter un jugement très sévère sur ce que nous étions. Et c'est pour cela que saint Paul continue en disant, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit alors avez-vous donc tiré des choses dont maintenant vous rougissez? Nombreux sont les chrétiens qui s'imaginent que la nature et la grâce sont deux ordres totalement distincts. Et s'ordonne de la façon suivante, la grâce est à peu près à la nature ce que la cerise est au gâteau. C'est-à-dire, c'est la chose que l'on décore, sachant que même s'il n'y avait pas de cerise sur le gâteau, ça serait un bon gâteau. La nature est une chose créée par Dieu, bien entendu, nous ne cesserons jamais de le dire, mais c'est aussi une chose déformée par la chute, et nous ne cesserons jamais de le dire non plus. C'est-à-dire que cette nature dont nous nous gargarisons bien souvent est quelque chose de malade. Quelque chose de monstrueux, au moins qui a été monstrueux, quelque chose de déformé, quelque chose de laid, quelque chose qui est d'autant plus laid que cela a été beau autrefois. Nos premiers parents en état d'innocence étaient magnifiques, étaient beaux. Et une fois qu'ils ont chuté, ils sont devenus laids. Ils ne sont pas devenus aussi laids que Satan, qui lui est définitivement laid, mais enfin, ils ont perdu cette beauté. Ils ont perdu ce vêtement de gloire qui les a laissés pauvres, aveugles et nus, comme dit notre Seigneur dans l'Apocalypse. Nous devons donc, comme eux, lors de leur chute, rougir de ce que nous avons été. Nous ne pouvons pas, mes très chers frères, considérer que lorsque nous étions païens, nous étions seulement naturels. Ça, il y a quelques théologiens qui l'ont dit, mais ce sont vraiment des insensés en réalité. Nous étions seulement naturels, et quand nous sommes devenus chrétiens, eh bien, cerise sur le gâteau, nous avons la grâce, parce que quand même la grâce existe, à surnaturaliser des vertus qui étaient là, et nous faisons le compte de ces vertus, un peu comme ce misérable Marc Aurèle qui persécutait les chrétiens, tout en se gargarisant des vertus dont il avait hérité de ses ancêtres, de son grand-papa un tel, de son grand-papa pas un tel, etc. Attention, mes très chers frères, nous devons rougir non seulement de ce que nous avons fait, mais de ce que nous étions autrefois. Alors vous allez dire, oui, mais est-ce que ça ne risque pas de nous faire tomber dans une sorte de névrose qui va nous décourager? Au contraire, mes très chers frères, on ne peut être encouragé non seulement à livrer ses membres au service de la justice pour devenir saints, mais à faire beaucoup plus par reconnaissance, par amour pour Dieu. On ne peut être encouragé, dis-je, dans ce sens-là, que dans la mesure où l'on est absolument persuadé que jusque-là, pour dire le moins, on a fait n'importe quoi, et on n'a fait que des choses qui nous faisaient rougir. Vous voyez? Comment mettre tout son zèle au service de la justice si l'on pense que l'on n'a quand même pas trop mal fait avant? Alors vous allez dire, mais de fait, j'ai fait des choses bonnes avant. Regardez tout ce que j'ai fait, je vais vous le dire, j'ai fait ceci, cela, j'ai sauvé la vie à quelqu'un, etc. D'accord, je ne dis pas que vous avez uniquement fait des choses qui, du point de vue moral, même admissible par les païens, étaient mauvaises. Mais du point de vue de Dieu, avez-vous fait tout ce que vous avez fait pour l'amour de Dieu? Vous voyez, vous avez sauvé la vie de quelqu'un, vous avez retiré quelqu'un d'une dépression, vous avez sauvé quelqu'un d'une, vous avez empêché quelqu'un de se suicider. Et vous avez dit, tout ça ne compte pour rien. Je vais vous dire une chose, mes très chers frères. Mettons, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de notre Père céleste, nous ne pouvons pas avoir une mentalité d'enfant terrestre, d'enfant du diable. Est-ce que vous avez fait toutes ces belles choses que vous avez faites, est-ce que vous les avez faites pour l'amour de Dieu? Non, parce que je n'étais pas chrétien. Alors, du point de vue des mérites, ça ne vaut rien. Alors, vous allez dire, ah bon, donc du coup, j'aurais pu très bien, alors, plutôt que d'essayer de sortir quelqu'un d'une dépression, j'aurais quand même pu l'assassiner. Non, parce que vous seriez chargé d'un autre péché. Alors, vous allez dire, le péché de meurtre, oui, mais pourquoi un autre péché? Toute action qui n'est pas faite explicitement ou implicitement, mais en tout cas implicitement pour un chrétien, parce qu'on ne peut pas, vous allez comprendre, toute action qui n'est pas faite pour l'amour de Dieu et par la charité, par la charité et pour la charité, pour l'amour de Dieu, du point de vue des mérites, est incapable de nous mériter la vie éternelle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une bonne action, je ne dis pas qu'elle ne vaut rien, je ne dis pas non plus que c'est un péché comme un péché est un péché. Elle n'est pas capable de nous mériter la vie éternelle. Donc si quelque chose pour nous, dont le seul bien est la vie éternelle, la contemplation éternelle de Dieu, si quelque chose n'est pas capable de nous mériter la vie éternelle, nous ne devons y attacher aucune importance. Et même, dit saint Paul, pour nous motiver, nous devons en rougir. Comment ai-je pu faire tout ce bien, mon Dieu, sans que ça soit par amour pour vous. Vous voyez? Alors, des fois, on parle pour les autres. On dit, bon, moi, je n'ai pas fait grand-chose, évidemment, mais enfin, il y a des gens, regardez, il y a des gens qui partent en coopération, dans des pays lointains, qui font le bien, qui donnent de leur bien, etc., qui donnent de leur temps, de leur vie, etc., et même parfois qui souffrent pour le prochain, etc. Pourtant, ils n'aiment pas Dieu. Est-ce qu'ils font des choses mauvaises? Eh bien, mes très chers frères, peut-être beaucoup plus que vous imaginez. Parce que quand on voit tous les scandales qui se passent dans les organismes ONG, etc., et puis, vous voyez, on se dit, ah, ce sont des héros de l'humanisme, et puis après, on s'aperçoit qu'ils abusent des petits-enfants, ils exploitent les gens, ils réduisent les gens en esclavage. On se dit que dans le fond, quand on ne fait pas les choses pour Dieu, pour l'amour de Dieu, on peut très bien aussi, en plus des bonnes œuvres selon la chair, on peut faire aussi beaucoup de mal. Je ne jette pas la pierre univoquement à tout le monde, tous les païens qui font des bonnes œuvres. Je dis, n'idéalisons pas, nous chrétiens, les païens qui font du bien. Certes, ils font du bien, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais nous, ce bien-là ne peut pas nous conduire à l'amour, à la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est fait sans la charité. Donc, de ce bien-là, si nous en avons fait, rougissons-en. Vous allez dire, mais moi, je n'ai pas fait beaucoup de bien. Alors, rougissez encore plus de vos péchés. C'est ça que je veux dire, mes très chers frères. Ne soyez pas, ne faites pas le, ne faites pas les, comme si vous ne compreniez pas. Nous devons rougir de tout ce que nous avons fait, du bien, mais surtout du mal aussi, parce que quand même, reconnaissons-le, nous avons fait quand même plus de mal que de bien. Alors, rougissons de ces choses. Vous voyez? Et saint Paul nous dit, puisque vous êtes faible, puisque vous êtes lâche, puisque vous êtes paresseux, puisque vous êtes tiède, puisque vous êtes pusillanime, au moins, ce que je vous dis de faire, c'est faites au moins aussi bien, autant pour Dieu, que vous avez fait pour le diable. Voilà comment saint Paul s'abaisse à nous avec une condescendance très paternelle dont l'Église se fait l'écho aujourd'hui, et elle nous dit, je vous en supplie, mes enfants, vous qui avez tant fait de mal autrefois, faites au moins autant de bien aujourd'hui que vous avez fait de mal autrefois. Et si vous devez considérer ce que vous avez fait autrefois, rougissez-en, car c'était des œuvres qui, bonnes ou mauvaises, eh bien, étaient incapables de vous donner la vie éternelle, car elles ont pour fin la mort, les choses que nous faisons autrefois. Si nous aidons notre prochain, si nous donnons tous nos biens pour les pauvres, si nous donnons même notre corps pour être brûlé en martyr et que ce n'est pas avec l'amour de Dieu, cela ne nous sert à rien et nous devons en rougir. Vous voyez, lorsque nous entendons parler des martionnistes autrefois qui étaient des hérétiques et qui se dénonçaient eux-mêmes en tant que chrétiens, hérétiques bien sûr, mais en tant que chrétiens aux magistrats, et qui étaient torturés et tués de la même manière que les martyrs, mais uniquement parce qu'ils croyaient en se faisant combattre les œuvres du diable qui étaient leur corps, l'œuvre du diable qui était leur corps, nous rougissons pour eux, parce qu'ils avaient toute l'apparence des martyrs chrétiens qui eux-mêmes étaient confrontés aux mêmes magistrats, c'était peut-être même les mêmes magistrats qui les tuaient. Mais nous rougissons pour eux parce qu'ils ont donné leur vie en martyrs, ce qui est très beau, mais non pas pour l'amour de Dieu, qui se vérifie par l'orthodoxie, mais pour l'hétérodoxie, et nous rougissons de ce qu'ils ont fait. Vous voyez, nous jetons la pierre, évidemment, nous disons que ce qu'ils faisaient était mal, mais nous rougissons qu'on puisse aller si loin dans le mimétisme de l'amour de Dieu, sans que cela soit par l'amour de Dieu. Donc, mes très chers frères, jugeons-nous très sévèrement. Jugeons très sévèrement ce que nous avons été. Jugeons-le à l'aune de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'être comme névrosé ou de dire des choses qui sont... Il s'agit de se juger sévèrement. Celui qui se juge sévèrement n'est pas jugé par Dieu. C'est une promesse de Dieu dans saint Paul. Vous rougissez maintenant. Et saint Paul dit, nunc nam finis ilor, pardon, incubus nunc erubescitis, desquels vous rougissez maintenant. Et ensuite, il dit, nunc vero liberati a peccato. Maintenant, or maintenant, libéré du péché, affranchi du péché, maintenant, c'est le maintenant qui compte. Maintenant, vous rougissez maintenant, et maintenant, vous êtes libérés du péché. Il y a une très grande différence entre ce que nous étions autrefois, mes très chers frères, et ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, nunc. Nunc, c'est, nous le disons aussi dans l'Ave Maria, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Maintenant et à l'heure de notre mort. L'heure de notre mort, c'est le dernier maintenant qui sera le nôtre durant cette vie. Ensuite, ça sera l'éternité. Maintenant. Maintenant, nous rougissons. Ne rougissons pas par intermittence en disant oui, de temps en temps, oui, ce que j'étais autrefois était mauvais parce que j'étais sans Dieu, mais quand même, non, maintenant, à chaque instant de notre vie, nous devons rougir, d'une certaine manière, pour parler comme saint Paul, de ce que nous étions autrefois, de telle sorte que maintenant que nous sommes affranchis du péché, nous puissions nous comporter en dignes serviteurs de Dieu. Nous tirons un fruit maintenant, qui est notre sanctification, dont la fin est la vie éternelle. Mes très chers frères, quelle merveilleuse promesse. Plus nous rougissons de ce que nous avons été, moins nous serons confondus dans l'éternité. D'où est-ce que je tire cette vérité? Tout simplement du graduel. Approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion. Si nous nous couvrons de confusion à la vue de ce que nous étions, du bien et du mal que nous avons fait lorsque nous étions autrefois sans Dieu, si nous nous approchons de Dieu maintenant, notre visage ne sera pas couvert de confusion. Approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion. La lumière dont il est question ici, c'est tiré du psaume 33, approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est un lampadaire qui nous illumine? Bien sûr que non. Il est une lumière de notre intelligence. Il est la lumière de notre intelligence. L'intelligence est appelée la lumière. On dit la lumière de la raison. Eh bien, il est la lumière de la lumière, il est la source de la lumière. C'est par votre lumière, dit l'Écriture, que nous voyons la lumière. La lumière de la raison. La raison du chrétien n'est pas la même que la raison du païen. Et là, c'était une question très délicate. Je ne vais pas approfondir le sujet parce que nous avons d'autres choses à voir, mais est-ce que la raison du païen est la même que la raison du chrétien? Alors on va dire, là, attention, attention, il y a le philosophe Aristote. On en parlera une autre fois. Maintenant, est-ce que la raison du chrétien est la même que la raison du païen? Attention, du point de vue moral, du point de vue des œuvres méritoires. Je ne parle pas d'une certaine base commune, évidemment, qui est certaine et que personne ne remet en question. Je dis, est-ce que pour la vie éternelle, c'est la même chose? Si vous dites oui, alors ça veut dire que d'une certaine manière, il n'y a quasiment aucun avantage à être chrétien, puisque de toute façon, la raison est aussi lumineuse que quand on est païen. Et si vous dites non, alors vous avez raison. Approchez-vous de lui pour être illuminé. Lorsque nous étions loin, nous n'étions pas proches de Dieu, si vous me permettez cette expression. Depuis que nous sommes approchés de Dieu, notre raison a été illuminée. Notre raison est une des choses qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre raison a été illuminée par la foi. Donc désormais, ce que saint Paul ou ce que l'Écriture nous demande, c'est que nous agissions en faisant des actes raisonnables. Saint Paul dira ailleurs, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une expression qui est difficile à comprendre lorsqu'on ne la comprend pas comme les pères l'expliquent. Un culte raisonnable, c'est un culte rationnel, c'est un culte qui convient à la nature humaine, telle que la droite raison l'intellige. Et c'est là où on s'aperçoit que quand on n'a pas la lumière de la foi, on ne comprend pas bien les choses. On les comprend au moins sous un certain rapport horizontal, mais certainement pas vertical. Et c'est la verticalité qui importe et qui illumine l'horizontalité. La lumière de la raison, donc, est illuminée par la foi. La raison nous fait, cette raison restituée à elle-même, cette raison illuminée par la foi, nous fait préférer Dieu au diable. Donc, préférer le diable est, pour le chrétien, déraisonnable. Vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que vous minimisez, préférer le diable, c'est déraisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que du coup, c'est... Attendez, comprenez bien ce que je veux dire. Si nous ne nous comportons pas, nous qui sommes chrétiens, si nous ne nous comportons pas d'une façon rationnelle, c'est que nous préférons le diable. Donc, se comporter d'une façon non raisonnable, déraisonnable, c'est préférer le diable. Donc, vous voyez, dit autrement, dit en sens inverse, ça prend plus de sens. Et nous soulignons plutôt que nous minimisons. Se comporter d'une façon déraisonnable, c'est préférer le diable à Dieu. Or, nous sommes les enfants de Dieu et le diable est notre pire ennemi. Vous voyez, le rôle de la volonté qui doit adhérer fermement au contenu de notre raison. Quel est le contenu de notre raison? C'est la foi. La raison n'est jamais qu'une meule qui moue le grain qu'on lui met. Si vous mettez des cailloux dans une meule, ça fait du plâtre. Si vous mettez des grains, ça fait de la farine. La raison, c'est une belle chose, la raison peut avoir ses maladies, il faut que la raison soit saine, mais il faut qu'elle ait quelque chose à l'intérieur, un principe qui l'illumine et qui la fasse fonctionner en bien. Si vous prenez un marteau pour aller taper sur la tête de votre prochain, vous avez fait de ce marteau, comme disent les juristes, une arme par destination. Mais le marteau n'est pas fait pour casser la tête à votre prochain. Il est fait pour enfoncer des clous. Si vous enfoncez des clous avec un marteau, si vous tapez vous prenez votre marteau dans votre main et que vous tapez sur un clou, vous agissez conformément à la raison. C'est-à-dire conformément à la raison d'être de ce marteau. Si vous tapez sur la tête de votre prochain, vous agissez d'une façon déraisonnable, parce que vous transformez ce qui n'est pas fait raisonnablement pour être une arme en arme. Lorsque nous agissons d'une façon déraisonnable, nous préférons le diable, mes très chers frères. Donc, nous devons faire intervenir notre volonté, qui doit adhérer fermement au contenu de notre raison, et que nous dit la raison, pour résumer ce qui fait la différence de notre raison avec la raison de malade des gens du monde, c'est que la raison nous fait considérer Dieu comme notre bien suprême et notre bien unique. Tout est ordonné à Dieu. Voilà, ordonner tout à Dieu, voilà se comporter d'une façon raisonnable pour un chrétien, c'est-à-dire pour un homme, parce que comme dirait l'autre, quand je dis l'homme, je dis le chrétien, en réalité, et c'est très vrai. L'homme raisonnable, c'est le chrétien. L'homme raisonnable, c'est celui qui agit toujours en fonction du centre même de sa connaissance rationnelle, c'est que Dieu est son bien suprême, son bien unique, et qu'il doit tout faire pour Dieu. Sinon, il déraisonne, il est déraisonnable, et ce n'est pas rien, sinon il préfère le diable que Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur le calvaire. Elles ont pour fin la mort, les choses que nous faisions autrefois. Celui qui pêche aime la mort, dit l'Écriture. Comment se persuader de ces vérités que nous venons de voir? Eh bien, mes très chers frères, demandons la solution à l'Église. Elle a tout prévu dans les textes de la messe d'aujourd'hui, c'est pour cela qu'elle nous promettait de nous enseigner la sagesse. Écoutez l'introïte, et c'est la même chose que l'Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par des cris d'allégresse. Car c'est le Seigneur, le Très-Haut, le Terrible, le Grand Roi de toute la terre. Donc nous nous demandons comment nous persuader des vérités que nous venons de voir. Premièrement, battez des mains tous les peuples. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas avoir l'air ridicule. Il y a une façon d'être ridicule, qui est la façon du saint roi David qui dansait devant l'arche et que sa femme, Michal, a trouvé ridicule. Eh bien, il a dit, si je suis ridicule, je me ridiculiserai encore. Parce qu'il y a une façon d'être ridicule, et qui est une façon d'être très sage. Alors, il ne s'agit pas forcément de battre des mains littéralement, encore que, il s'agit d'être dans une très grande exultation de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Acclamer Dieu pour la grâce du baptême, mes très chers frères. Souvent, nous sommes vis-à-vis de Dieu d'une froideur extraordinaire, et nous sommes vis-à-vis de nos propres inventions, d'un très grand enthousiasme. Eh bien, comme nous avons agi ainsi autrefois, inversons la proportion et soyons enthousiastes pour Dieu et très peu enthousiastes pour nous-mêmes. La grâce du baptême, mes très chers frères, est-ce que nous pensons à exulter de joie, à battre des mains comme un débile, si j'ose dire. Oui, voilà, disons-le les choses. Est-ce que nous pensons à sauter de joie et à battre des mains comme un petit enfant auquel on est en train de donner un cadeau à la pensée de notre baptême? Est-ce que nous pensons que sans le baptême, on ne peut pas être sauvé? Si nous n'avions pas reçu ce sacrement qui est la porte de tous les autres sacrements, nous serions encore enfants du diable et la marque de Dieu ne serait pas imprimée sur notre front et dans notre âme. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante de sauter de joie comme un petit enfant, de battre des mains et d'acclamer Dieu? Est-ce que nous le remercions pour notre conversion, mes très chers frères? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sommes reconnaissants avec exultation? Combien nous sommes, mes très chers frères, mesquins souvent dans notre gratitude? Vous voyez, nous pensons à notre conversion, et loin de sauter comme un enfant et de battre des mains d'acclamer notre Dieu avec des cris d'allégresse, nous disons, oui, mais enfin quand même, c'est l'aboutissement d'un processus, quand même, je viens d'une famille gauchiste, j'ai quand même fait l'effort de comprendre certains enjeux politiques, je viens d'une famille de droite, j'ai fait l'effort d'aller plus loin que Papa Maurras et compagnie, et j'ai compris les nouvelles... Et si tout ceci est vrai, eh bien rendez-en grâce à Dieu, et puis convertissez-vous, parce que probablement vous ne l'êtes pas encore. Si vous vous êtes vraiment converti, mes très chers frères, quand vous vous retournez, vous dites, mais mon Dieu, c'est impossible que j'ai fait sur cette voie un seul pas, que j'ai mis un seul pied devant l'autre, sans votre grâce qui m'a efficacement poussé jusqu'à vous, qui m'a efficacement tiré jusqu'à vous, et c'est une raison, mes très chers frères, de sauter de joie et de battre des mains et d'acclamer Dieu avec des cris d'allégresse. Pour ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas fait peu pour nous, mes très chers frères. Il a donné son Fils afin qu'il meure pour nous et que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle est la grâce de Dieu en Jésus-Christ, dit saint Paul. Et c'est ainsi qu'il termine son épître. Car la mort est la solde du péché, mais la vie éternelle est la grâce de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà de quoi, mes très chers frères, nous persuader de ces vérités. Vous voyez, ces vérités ne doivent pas être simplement des vérités que nous emmagasinons dans notre mémoire. C'est une bonne chose que d'avoir la mémoire, que Dieu nous la rallonge et nous en donne plus. Mais c'est une chose que de la faire passer dans sa raison, et la raison peut être exultante de joie. Lorsqu'on sait que Dieu est notre bien suprême et qu'il nous aime, la raison peut nous conduire à l'exultation. Ce n'est pas un signe d'une raison très saine que de rester froid, que le cœur reste froid face au contenu dont cette raison nous assure qu'il est vrai. Dieu est mon bien suprême, bon. C'est très bien, passons à autre chose. Non, Dieu est mon bien suprême, alléluia, gloire à Dieu, je saute de joie, je bats des mains, et pas simplement moi, mais les peuples entiers, les peuples qui ont été rachetés par Dieu, battent des mains et exultent de joie. Vous voyez, c'est une façon joyeuse d'ailleurs de se persuader de ces vérités. Et il y a une deuxième raison, une deuxième façon de se persuader de ces vérités qui est concomitante, c'est d'un autre ordre, c'est dans la suite de l'introïte. Car c'est le Seigneur, parce que c'est le Seigneur, le Très-Haut, le Terrible, le Grand Roi de toute la terre. Lorsque nous exultons et battons des mains face au salut que Dieu a opéré envers nous, nous devons comprendre que nous exultons et battons des mains d'autant plus fortement que ce Dieu est un Dieu terrible qui aurait pu tirer vengeance de notre prévarication et de nos péchés. Vous voyez, lorsque une maman, lorsqu'un papa donne un cadeau promis à un petit enfant, à son petit enfant, à son enfant, le petit enfant devient tout fou. C'est pour ça que des fois, il faut leur dire, bon, calme-toi, bon, c'est très bien. Le chrétien ne doit pas se calmer, il doit être encore plus fou qu'un petit enfant, parce que justement, il a la raison et il est fou pour Dieu. Mais lorsque le petit enfant reçoit un cadeau de son papa ou de sa maman, il bondit de joie parce que, pourquoi? Parce que c'est son papa ou sa maman qui lui donne. Lorsque un inconnu donne un cadeau au petit enfant, le petit enfant, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, enfin éviter que les inconnus s'approchent de nos enfants d'ailleurs, il faut les maintenir loin, mais l'enfant va devenir tout calme, tout tranquille, il va y avoir un beau sourire sur son visage, mais l'enfant va être comme en quelque sorte pétrifié. Quelle est la différence? Pourtant, c'est à peu près le même cadeau. C'est parce qu'il y a une confiance dans le père ou la mère qui lui donne le cadeau, et le petit enfant sait qu'il peut devenir complètement fou de joie, et que, quoi qu'il arrive, le papa ou la maman est là pour prendre soin de lui. Tandis que l'inconnu fait plaisir à l'enfant lorsqu'il lui donne un cadeau, mais en même temps, c'est un inconnu, on ne sait pas. On ne sait pas à quoi s'attendre, et on se méfie. Les enfants, il faut leur apprendre à se méfier des inconnus, bien sûr, mes très chers frères. Donc, vous voyez, Dieu Notre Dieu, nous exultons d'autant plus de joie face à lui, face au don qu'il nous a donné du salut, à la grâce qu'il nous a faite du salut, qu'il est notre Père, le Seigneur, le Très-Haut, le Terrible, le Grand Roi sur toute la terre. Nous savons que ne pas correspondre à notre raison d'être, c'est spolier Dieu c'est spolier Dieu de ce qui lui appartient. Dénaturer la nature, c'est provoquer le Dieu terrible et très haut, d'où la hideur de la révolte des esclaves contre la justice. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un peu partout dans le monde des révoltes d'esclaves par procuration. Il y a des gens qui se révoltent, qui disent « c'est pas possible, c'est pas bien d'obéir ». Et c'est très mal, c'est très très mal en réalité, car nous sommes esclaves de la justice. Vous voyez, c'est un très mauvais exemple qu'il donne. Il ne faut pas, il faut être, lorsque l'on a trouvé un bon maître, il faut se soumettre à ce maître. Vous voyez, et il faut se comporter d'une façon digne de lui. Il faut servir Dieu en fonction, nous dit un auteur, il nous faut servir Dieu en fonction de la dignité et des grâces qui nous sont données qui nous sont procurées par ce service. Nous devons donc exulter de joie et en même temps nous devons craindre ce Dieu devant lequel nous pouvons exulter de joie. Vous voyez, cette crainte du Seigneur ne nous pétrifie pas parce que nous connaissons le Seigneur. Qui est le Seigneur? Le Seigneur est notre bon pasteur, le Seigneur est notre berger, le Seigneur est notre Père céleste. Vous voyez, si vous-même, dit notre Seigneur à des bons pères de famille, si vous-même, vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous les demandent, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les demandent? Alors vous voyez, mes très chers frères, tout ceci a de quoi nous encourager. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que l'Église a encore d'autres choses à nous enseigner aujourd'hui. Notre Seigneur dit ceci, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Alors évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, dans beaucoup de chapelles, et c'est très bien, on fera des sermons sur les faux prophètes, etc., et on sait qui ils sont, bien entendu. Mais vous voyez, des fois, les faux prophètes sont beaucoup plus proches qu'on peut l'imaginer. Le faux docteur, nous fait remarquer un commentateur, le faux docteur est décrit par notre Seigneur comme s'approchant. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, qui veniunt ad vos, qui viennent à vous sous des brebis. Et les auteurs, les anciens, les pères qui commandent ce passage nous disent, voyez-vous, le vrai prophète, on va à lui. Saint Jean n'allait pas dans les villes courir après les gens pour Saint Jean-Baptiste, n'allait pas après les gens dans les villes pour courir après eux en leur faisant miroiter toutes sortes de choses. Il prêchait aux abords du désert et les foules venaient dans le désert. C'est pour ça que j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire, mes très chers frères, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais utiliser l'expression profane prêcher dans le désert, parce que Saint Jean, justement, prêchait dans le désert parce que des foules étaient dans le désert. Ce n'était pas un débile qui prêchait parce qu'il y avait, là où il n'y avait personne. Hein. Il prêchait dans le désert parce que les foules venaient à lui. Mais les faux docteurs, je referme la parenthèse, mais les faux docteurs viennent à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, mes très chers frères, que, et ça, les commentateurs anciens ont beaucoup parlé, ils viennent vers nous, c'est-à-dire on reconnaît leur doctrine à ce qu'elle flatte d'une manière ou d'une autre notre amour-propre. Ils nous prêchent une morale relâchée, ils nous prêchent des absolutions à bon compte, ils nous prêchent un minimum de contrition pour un maximum de communion. Vous voyez, toutes sortes de choses qui, en fonction des écoles, en fonction des temps, sont des choses qui caractérisent, sont des détails qui caractérisent les faux docteurs. Le faux docteur vient à vous, le faux docteur vient à nous en ce qu'il flatte notre amour propre. Le faux docteur, pour le caractériser encore, a tendance à faire passer les préceptes dans la catégorie des conseils. Le faux docteur, c'est celui qui vous dit, et malheureusement, le faux docteur, c'est souvent des clercs, qui vous dit, mais finalement, vous savez, le christianisme, c'est un idéal. D'une certaine manière, renoncer à soi-même et suivre le Christ, porter sa croix, c'est surtout pour les religieux, pour les laïcs, le bon Dieu n'en demande pas tant, il faut savoir. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont contraignantes, qui semblent contraignantes pour tous les chrétiens. Mais en réalité, c'est réservé à une certaine élite, les autres chrétiens pouvant en faire des compositions, composées avec le monde. Ce sont des faux docteurs. Le faux docteur vient à nous. Le faux docteur vient à nous, non pas comme Saint Paul qui s'abaisse à nous pour nous parler d'une façon compréhensible, et il s'abaisse à nous de telle sorte de ne pas trop nous flageller et pas trop nous vexer quand il dit « je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse ». Les faux docteurs disent « vous êtes des hommes, donc vous avez des faiblesses, donc le bon Dieu doit nécessairement prendre en compte vos faiblesses, c'est un droit ». Méfiez-vous des faux docteurs qui viennent à vous pour vous parler le langage qui vous fait plaisir, les faux docteurs qui vous flattent. Ah, c'est très bien, vous avez entrepris telle ou telle chose pour l'Église, c'est très très bien, continuez, c'est parfait, c'est un faux docteur. Alors, vous allez dire, oui, mais alors vous accusez telle ou telle personne d'être faux docteur. Je n'accuse personne, mes très chers frères, je prêche l'Évangile. Et notre Seigneur dit, méfiez-vous des faux docteurs qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux docteurs sont donc ceux qui vont dans notre sens. Or, depuis le début de ce sermon, nous cherchons à voir comment remonter la pente, comment aller dans l'autre sens que le sens de la concupiscence, si j'ose dire. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans le graduel, il est dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur ». Et notre Seigneur dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Vous voyez, « Venez mes fils », ça, le vrai docteur vous attire à lui, nous attire à lui parce qu'il est le Christ, il porte la parole de la sagesse éternelle, et il dit « Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ». La crainte de Dieu ne consiste pas en des paroles, mais en des actions, en des bonnes œuvres. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits, c'est la réalité objective de nos actes. Les fruits, c'est la réalité objective de nos actes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu pédant de dire ça comme ça. Les fruits, c'est ce que nous faisons réellement. Et bien souvent, nous sommes dans la volonté ou la velléité de porter des fruits. Et il nous semble que cette velléité tient lieu de fruits, parce que nous nous fondons sur l'adage, c'est l'intention qui compte. Oui, mais l'intention qui compte, c'est le juge final qui le dit. Il dit, voilà, vous avez voulu visiter les malades, vous n'avez pas pu, vous avez voulu donner votre bien aux pauvres, vous n'avez pas pu, vous avez voulu vêtir ceux qui sont nus, vous n'avez pas pu. Je vous compte l'intention comme le fait. Mais si nous disons, oh ben, j'ai pas vraiment l'intention, j'ai pas vraiment, je voudrais bien le faire, enfin bon, en même temps, il faudrait, ça provoquerait tellement de tracas que de le faire, donc le bon Dieu voit l'intention. Non, ça c'est pas l'intention, ça c'est la velléité. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Les fruits, c'est donc la réalité objective de nos actions. Les œuvres sont la langue du cœur, dit saint Augustin. Les œuvres sont la langue du cœur. La gratitude se manifeste par les œuvres dont on n'a pas à rougir, mes très chers frères, et qui ne conduisent pas à la mort. Si nous, sous prétexte d'être chrétiens, nous faisons des œuvres dont, d'une manière ou d'une autre, nous avons à rougir, sachant que non seulement ce sont des œuvres auxquelles nous devons renoncer parce qu'elles sont mauvaises, mais ce sont des œuvres qui nous conduisent à la mort. Si nous avons à rougir, alors vous allez dire, je n'en rougis que parce qu'on me dit qu'elles sont mauvaises. Eh bien, comprenez rationnellement que ces œuvres sont mauvaises. Oui, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'elles sont mauvaises. J'ai l'impression que ce que je fais est bien. Eh bien, vous vous trompez. Les œuvres bonnes, les œuvres de la reconnaissance, mes très chers frères, les œuvres qui procèdent d'une bonne volonté qui a les moyens, avec l'aide de Dieu, de se réaliser, ce sont des œuvres dont nous n'avons pas à rougir et dont nous n'avons pas non plus à nous justifier. Ce sont des œuvres qui sont vraiment bonnes. Il y a une règle très importante pour nous défendre contre l'illusion, nous dit un auteur, c'est de nous juger nous-mêmes, non pas en fonction des désirs stériles, ni par des sentiments tout trompeurs de dévotion, mais par nos œuvres. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Alors attention, évidemment aujourd'hui cette question est trompeuse. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Ah, je vais faire un blog, je vais faire... Non, attendez. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il m'a donné de faire? Il m'a donné des talents pour que je les utilise. Il m'a fait donner le sacrement de mariage, il a permis que j'obtienne ce sacrement de mariage, donc je sais ce que Dieu veut faire de moi, il veut que je fasse. Il veut que j'aime mon épouse comme moi-même, comme le Christ aime son Église. Il veut que j'élève mes enfants afin qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs petits-enfants la vérité, et qu'ils ne se perdent pas dès qu'ils ont l'occasion d'apostasier. Il faut que je sois un père de famille qui soit capable de guider et défendre ma famille comme le Christ guide et défend l'Église. Vous voyez, ça ce sont des choses qui sont des réflexions rationnelles qui peuvent tout à fait nous conduire à définir quelles sont les œuvres que nous devons faire, ces œuvres dont nous n'aurons pas à rougir, ni maintenant, ni jamais. Il ne faut pas dire Seigneur, Seigneur, comme nous apprend notre Seigneur, mais faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et cette volonté de notre Père qui est dans les cieux se manifeste rationnellement, mais pas comme les païens, pas comme selon la raison des païens qui suivent leur volonté propre, selon encouragés par, en cela par les faux docteurs, mais rationnellement illuminés, avec notre raison illuminée par la foi, qui nous fait savoir quelle est la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Les œuvres que nous devons faire doivent systématiquement, mes très chers frères, aller à l'encontre des volontés et des tendances de la chair. Un bon arbre, nous, troisième partie, un bon arbre, dit notre Seigneur, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Chacun dans sa condition, nous dit notre Père Saint-Augustin, chacun dans sa condition doit tâcher d'être aussi bon arbre qu'il le doit être, et de porter d'aussi bons fruits que Dieu le commande, et avec autant d'abondance qu'on le doit. Chacun dans sa condition. Il y a des conditions qui n'en sont pas, des conditions imaginaires, vous le savez quelles sont, mes très chers frères, on ne peut pas en parler à chaque fois. Il y a des conditions aussi qui sont des conditions réelles, et alors là il faut porter du fruit, et du fruit en abondance. Pas simplement un fruit de temps en temps avec quelques vers dedans dont le bon Dieu fera abstraction, du fruit, une multitude de fruits. Ce qui suffit, nous dit un autre auteur, un moraliste, ce qui suffit pour sauver un particulier, c'est-à-dire un laïc, ne suffit pas pour sauver un évêque ou un prêtre. Ce qui suffit pour une personne qui n'est pas dans le mariage ne suffit pas pour un père de famille chargé du soin et de l'éducation de ses enfants, et ainsi de suite. Ce qui suffit pour un ne suffit pas pour un autre. Il ne faut pas regarder son prochain en disant « Ah ben voilà, il fait ça, ben moi aussi je vais le faire ». Non, 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 non. Le prêtre se sanctifie en écoutant les confessions. Si un laïc écoute des confessions, il se damne. Un père de famille se sanctifie en élevant des enfants. Un prêtre ne peut pas avoir d'enfants. Et ainsi de suite. Tout ce que mon prochain fait pour se sanctifier n'est pas forcément ce que je dois faire moi-même. Néanmoins, nous avons une base commune, qui est de faire la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu se manifeste dans notre état, dans les divers états. Et finalement, nous, même si nos opérations sont différentes et même contradictoires, elles procèdent toutes de la même racine du bon arbre, qui est la charité, bien entendu, mes très chers frères. La charité sans laquelle aucun arbre ne peut être réputé bon, et aucun bon arbre ne peut porter de fruits. Alors, vous allez dire, tout ceci a commencé par l'exultation et les battements de mains face à ce que Dieu a fait pour nous, et puis tout d'un coup, ça devient plus sérieux, d'une certaine manière. Alors, on était très sérieux, vous avez compris, mes très chers frères. Mais tout ceci devient assez épouvantable. C'est-à-dire que nous nous apercevons que si nous ne portons pas de fruits, nous sommes un mauvais arbre. Et que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, dit notre Seigneur. Alors, il n'y a pas de quoi couper notre joie. Il faut continuer à battre des mains, il faut continuer à exulter de joie pour le salut que Dieu a opéré pour nous, d'autant plus qu'en exultant de joie, nous allons non seulement faire le minimum pour Dieu, mais nous allons faire plus. Qu'est-ce que ça veut dire faire plus? Consacrer toute sa vie à Dieu. Ne plus faire aucune action dont nous avons à rougir, et ne faire que des actions de meilleur en meilleur, si j'ose dire, de mieux en mieux des actions qui vont produire du fruit. Un fruit que Dieu seul connaîtra. Peut-être nos actions seront-elles empêchées dans leurs fruits et que personne ne verra le bon fruit de nos actions. Dieu le verra, mes très chers frères. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne comptabilise tous les fruits et personne ne peut vous ravir votre prix éternel, votre couronne. Laissons-nous épouvanter, nous dit un auteur, et laissons-nous épouvanter par cet évangile. Laissons-nous épouvanter par cet évangile. Jugeons-nous nous-mêmes, suis-je un bon arbre? Ou suis-je un mauvais arbre? A priori, je suis un bon arbre, parce que je suis baptisé. Sans le baptême, on ne peut pas être un bon arbre. Maintenant, avec le baptême, on peut être un bon arbre. Donc, si je suis un bon arbre qui ne porte pas encore de bons fruits, il faut vite, 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 au moins être aussi prompt à obéir à Dieu que j'ai été prompt autrefois à obéir à ma volonté propre et au diable. Laissons-nous épouvanter par cet évangile. Cela nous donnera la mesure de notre impuissance sans la grâce et sans la charité. Et c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il faut prier de tout notre cœur, de tout notre cœur, tout au long de notre vie, l'oraison d'aujourd'hui, de ce septième dimanche après la Pentecôte. Ô Dieu, dont la providence ne se trompe point en ses dispositions, écartez tout ce qui peut nous nuire, accordez tout ce qui doit nous servir. Ô Dieu, dont la providence ne se trompe point en ses dispositions, ne récriminons pas contre Dieu pour l'état où nous sommes. Il nous est arrivé toutes sortes de choses, nous avons parcouru toutes sortes de chemins qui nous ont écorchés, qui nous ont transpercé les pieds, qui nous ont fait souffrir. Ne disons pas, si seulement Dieu avait été là, j'aurais... La providence ne se trompe point dans ses dispositions. Si notre passé avait été différent de ce qu'il avait été, probablement que nous ne serions pas là, en train d'exulter de joie face au salut que Dieu a pourvu pour nous. La providence de Dieu ne se trompe point en ses dispositions. Ça ne veut pas dire qu'il faut se gargariser du passé, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des regrets stériles. Le passé, c'est le passé. Il ne faut pas incriminer Dieu pour notre passé, mais il faut y voir, il ne faut jamais récriminer contre la providence, il faut voir comment Dieu nous a guidés au travers de toutes sortes d'écueils pour que nous arrivions, même brisés et rompus, au port du salut. Ô Dieu dont la providence ne se trompe point en ses dispositions. Et une fois que nous sommes arrivés au port du salut, une fois que nous sommes munis de ce laisser-passer pour le ciel qu'est le baptême, nous lui disons au Seigneur, nous qui sommes encore en état de voie, écartez tout ce qui peut nous nuire. C'est-à-dire écartez de moi le vieil homme. Mais comme le vieil homme fait partie de moi-même, écartez de moi l'adhésion au vieil homme. Faites-moi rougir, Seigneur, donnez-moi de rougir univoquement de ce que j'étais autrefois lorsque j'étais esclave du vieil homme. Écartez de nous tout ce qui peut nous nuire. Écartez de nous cet attachement secret, cette complaisance, cette légère sympathie que nous avons pour certains aspects de ce que nous étions autrefois. Écartez de nous tout ce qui peut nous nuire. Écartez de nous, Seigneur, cet amour propre, cette volonté propre, et accordez tout ce qui peut nous servir. Qu'est-ce qui peut nous servir? Si ce qui nous nuit, c'est la chair, ce qui peut nous servir, c'est l'esprit. C'est la bonne volonté, au sens forte de la volonté bonne. C'est la gratitude en acte. C'est l'exultation pour le salut que Dieu a réalisé pour nous. La gratitude en acte. C'est cela, mes très chers frères, la crainte du Seigneur. Alors, mes très chers frères, faisons comme tous les peuples qui ont été rachetés, battons des mains, battez des mains, acclamez Dieu par des cris d'allégresse, car c'est le Seigneur, le Très-Haut, le Terrible, le Grand Roi de toute la terre, notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.